Alors ça y est, nous y sommes. Nous arrivons au cœur, au centre, au texte clé de toute la lettre de Paul aux Galates. Tout ce qui est dit avant, le texte que nous allons lire et méditer ensemble ce matin, trouve son aboutissement ici. Et tout ce qui va être dit après, chapitres 5 et 6, d'ailleurs à l'atelier de la foi, vous en aborderez certains aspects, ce sont les implications pratiques par rapport à la liberté chrétienne. Et c'est ça le thème de ce matin. Nous sommes appelés à la liberté. Il est donc nécessaire, essentiel pour nous de bien comprendre le texte de ce matin pour comprendre toute la lettre aux Galates. Et donc pour comprendre ce que Dieu nous communique au travers de cette lettre pour la construction de notre foi. Alors, je vous invite ce matin, si vous n'êtes pas bien réveillé, à vous étirer, à bâiller un bon coup, parce qu'il va falloir vous accrocher un petit peu. Et le défi pour moi, en tant que prédicateur, va être de vous expliquer un texte complexe pour que vous puissiez, pour que nous puissions utiliser cette clé, ce texte clé, et bien comprendre toute cette lettre aux Galates qui est là, dans le texte de ce matin, un peu l'aboutissement du raisonnement de Paul dans les chapitres 1 à 4. Et vous allez voir, j'espère réussir à vous faire sentir l'enjeu essentiel, fondamental de ce texte de l'Épître aux Galates pour toute la foi chrétienne. Alors, accrochez vos ceintures, c'est parti. Je vous invite à lire dans Galates chapitre 4, dans le Nouveau Testament, à partir du verset 21. Et nous lirons jusqu'au premier verset du chapitre 5. Donc Galates chapitre 4, à partir du verset 21. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous pas ce que dit la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la servante et un de la femme libre. Mais celui de la servante est né selon la chair, et celui de la femme libre est né en raison de la promesse. Il y a là une allégorie, car ces deux femmes sont deux alliances. L'une, celle du mont Sinaï, fait naître pour l'esclavage cette Agar. Or Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Et elle correspond à la Jérusalem actuelle, car elle est dans l'esclavage avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, et c'est elle qui est notre mère. En effet, il est écrit « Réjouis-toi, femme stérile, toi qui n'as pas eu d'enfant. Éclate en cri de joie, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'accouchement. Car les enfants de la femme délaissée seront plus nombreux que ceux de la femme qui a son mari. » Quant à vous, mes frères, comme Isaac, vous êtes les enfants de la promesse. Mais tout comme autrefois, celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore aujourd'hui. Or, que dit l'Écriture ? Chasse l'esclave avec son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Ainsi, mes frères, nous ne sommes pas les enfants de l'esclave, mais ceux de la femme libre. C'est pour la liberté que le Christ nous a libérés. Tenez donc ferme et ne vous remettez pas sous le joug de l'esclavage. Comme je le disais tout à l'heure, l'idée centrale que l'apôtre Paul développe dans ce thème, c'est « Dieu nous appelle à la liberté ». Dieu nous appelle à la liberté. Et j'aimerais décliner cette idée en trois temps. Premier temps, on ne naît pas chrétien, on le devient. Deuxième temps, on devient chrétien comment ? En étant libéré de l'esclavage par Jésus-Christ. Troisième temps, on reste chrétien en résistant à toute forme d'esclavage. Donc on ne naît pas chrétien, on le devient. On devient chrétien en étant libéré d'un esclavage par le Christ. Troisièmement, on reste chrétien en résistant à tout retour à l'esclavage. Premier point, on ne naît pas chrétien, on le devient. Je rappelle rapidement la situation que Paul aborde dans cette lettre. Ces chrétiens galates sont séduits par de faux enseignants qui disent « Un vrai chrétien croit en Jésus-Christ et obéit à la loi de Moïse pour être sauvé. » Et c'est les deux. Et Paul interpelle les Galates, ici au verset 21, en leur disant « Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, parce qu'ils sont séduits, tentés de revenir à une forme d'esclavage dans la vie chrétienne. » Et dans les versets qui suivent, du verset 22 jusqu'au verset 27, Paul va développer un certain nombre d'arguments pour expliquer ce que dit la loi dont il parle ici. « Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'écoutez-vous pas ce que dit la loi ?» Que dit la loi ? C'est ce que Paul va dire dans la suite. Et ce qui rend le raisonnement, l'argumentation de Paul compliqué, c'est qu'il dit beaucoup de choses en peu de versets. Il parle d'Abraham, il parle de promesses, il parle d'esclavage, il parle de Jérusalem, d'ailleurs de Jérusalem. Il cite un texte du prophète Ésaïe, au verset 27 ici, il parle d'allégorie. Comment s'y retrouver là ? Comment comprendre ? Nous allons procéder par étapes. Regardons d'abord les versets 22 et 23, je les relis. Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la servante et un de la femme libre. Mais celui de la servante est né selon la chair, et celui de la femme libre est né en raison de la promesse. Que dit Paul ici ? Il fait référence au récit de la Genèse, le premier livre que l'on trouve quand on ouvre la Bible, la Genèse, qui nous parle de l'histoire des patriarches, de nos origines. Dans le texte ici, dans Galates, on n'a pas beaucoup de noms. Mais il est facile de comprendre, quand on connaît un petit peu le récit de la Genèse, de quoi Paul est en train de parler. Et là, il s'adresse à des gens qui connaissent l'Ancien Testament. Si donc nous avons un petit peu du mal à suivre, il serait bon pour nous de retourner pendant cette semaine lire dans la Genèse de quoi Paul parle ici en détail. Redécouvrons ou découvrons brièvement l'histoire à laquelle Paul fait allusion. Dans Genèse au chapitre 12, que vous pourrez relire chez vous, on voit que Dieu appelle un homme, un certain Abraham, pour faire de lui le pionnier, l'ancêtre d'une nation, Israël, qui existe encore aujourd'hui. À cet homme, Abraham, Dieu fait des promesses de bénédiction, d'une descendance nombreuse et d'un pays qu'il va lui donner en héritage. Abraham a 75 ans quand il reçoit cette promesse de Dieu. Problème, sa femme, Sarah, est stérile, elle ne peut pas avoir d'enfant. Donc on a cette situation où Dieu dit à Abraham, tu vas avoir une descendance nombreuse. Et Abraham, qui est déjà un monsieur âgé, sa femme a 65 ans, elle est stérile, qu'est-ce qui va se passer ? Dieu fait cheminer Abraham et Sarah jusqu'au pays qu'il leur a promis. Pendant 25 ans, ils vont cheminer. Et ils arrivent là où leurs descendants, selon la promesse de Dieu, vont s'établir plusieurs siècles après. Mais la descendance promise tarde à venir, parce que la stérilité de Sarah reste. Alors, que faire ? Abraham et Sarah, vous pourrez lire ça dans Genèse chapitre 16, recourent au service d'une mère porteuse. Ça se fait aujourd'hui aussi. La servante de Sarah, qui s'appelle Agar, elle est nommée ici dans notre texte de Galates, chapitre 4. Dieu a fait une promesse, tu auras une descendance, mais cette descendance ne vient pas. Alors, Abraham et Sarah utilisent les moyens humains de l'époque, et Sarah obtient un fils, Ismaël, par l'intermédiaire de sa servante Agar. Et là, j'aimerais faire une courte parenthèse, qui n'est pas vraiment une parenthèse, qui est en lien avec le texte, pour dire que c'est cela le sens de l'expression « selon la chair ». Vous avez noté cette expression dans les versets que nous avons lus, hein ? Verset 23, « Le fils de la servante est né selon la chair, et celui de la femme libre est né en raison de la promesse. » ici, l'expression « selon la chair » ne veut pas dire « conçu dans le péché ». Vous entendez bien ? Chair ne veut pas dire « péché » ici. La chair, selon la chair, c'est selon la nature humaine, dans les limites fixées par Dieu, sans intervention extraordinaire de sa part. Galates chapitre 5, dont vous allez commencer à discuter à l'atelier de la foi, oppose la vie que l'on peut mener par l'Esprit de Dieu et la vie que l'on peut mener selon la chair. Selon la chair, cela veut dire selon nos capacités humaines naturelles, sans Dieu. Alors, le problème, c'est que le péché s'engouffre dans nos capacités naturelles. Et cela explique, au moins en partie, la confusion que l'on peut faire entre la chair et le péché quand on lit la Bible. Mais ici, dans Galates chapitre 4, lorsque Paul parle du fils de l'esclave conçu selon la chair, cela veut dire le fils conçu selon les moyens naturels quand on est devant un problème de stérilité. Tout simplement. Cela ne justifie pas le recours à une mère porteuse, et cela ne veut pas dire qu'Abraham et Sarah ont eu raison d'agir ainsi. Si vous relisez l'histoire de la Genèse, vous verrez les jalousies, les disputes, les persécutions, on va en reparler, qui sont nées de cette situation de mariage à trois. Mais ni le récit de la Genèse, ni ce que dit Paul ici en Galates, ne parle de péché, mais seulement de deux situations. Une situation où les hommes font ce qu'ils peuvent sans Dieu, selon la chair, et une autre situation où Dieu intervient miraculeusement, selon son esprit, selon sa promesse. Et cette situation, cette deuxième situation, échappe aux capacités humaines. L'homme n'y est pour rien. Avoir un enfant quand on a 90 ans, qu'on est une femme et qu'on est stérile, c'est surnaturel, c'est extraordinaire, c'est impossible, humainement parlant, même aux États-Unis. Je dis ça parce qu'aux États-Unis, on a des records de femmes qui ont 65, 70 ans et qui accouchent. Abraham et Sarah sont âgés quand ils reçoivent la promesse et ils attendent 25 ans avant que Dieu accomplisse sa promesse. Et alors, quand cela se réalise et quand Sarah tombe finalement enceinte et qu'elle accouche, eh bien, et Abraham et Sarah rient de cette situation. Et c'est comme ça qu'ils appellent leur fils. Il rit, Isaac, c'est ça que ça veut dire, il rit. C'est impossible, c'est incroyable à vue humaine. Ça ne pouvait pas se faire. Mais ce n'était pas impossible pour Dieu. Et donc, à partir de cette histoire du peuple juif, que je prends le temps de reprendre pour que nous comprenions bien, Paul dit qu'il y a là une allégorie. C'est quoi une allégorie ? C'est tout simplement une comparaison entre deux situations. On prend les éléments d'une histoire, et puis on regarde les éléments d'une autre histoire, et puis on dit, eh bien ça, ça correspond à ça. Ça, c'est ça. Et c'est ce que Paul fait ici. Il fait une comparaison. Relisons au verset 24. Il y a là une allégorie, car ces femmes sont deux alliances. L'une, celle du Mont Sinaï. Mont Sinaï, c'est là où la loi de Moïse a été donnée au peuple d'Israël. On va y revenir. L'une, celle du Mont Sinaï, fait naître pour l'esclavage cette Agar. Or, Agar, c'est le Mont Sinaï en Arabie. Et elle correspond à la Jérusalem de maintenant, car elle est dans l'esclavage avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut, autre situation, est libre, et c'est elle qui est notre mère. Et ensuite, il y a une citation du prophète Ésaïe, à laquelle je reviendrai tout à l'heure. On a donc deux situations. On a deux fils, d'un côté Ismaël, de l'autre côté Isaac. Ismaël, l'enfant né selon la chair, selon les méthodes naturelles, avec la mère porteuse Agar. Isaac, l'enfant né selon la promesse de Dieu. On a deux femmes, Agar la servante, Sarah, la femme d'Abraham, la femme libre. On a deux alliances. Une alliance représentée par Agar, fondée sur les capacités naturelles humaines, sans Dieu. Une deuxième alliance fondée sur les promesses de Dieu. Et on a enfin deux Jérusalem, que Paul appelle la Jérusalem de maintenant, la Jérusalem actuelle, c'est-à-dire qui dépend de la nationalité juive, de la filiation de sang. On est juif, on ne le devient pas, on est juif. Et puis, une Jérusalem d'en haut, céleste, qui correspond à un peuple, au peuple de la foi, et pas de la nationalité. Donc on a en résumé d'un côté Agar, Ismaël, la loi de Moïse et la Jérusalem terrestre, ça va vous suivez ? Et de l'autre côté on a Sarah, Isaac, la promesse de Dieu et la Jérusalem d'en haut. Et bien là ce que Paul est en train de dire, c'est énorme. Il est en train de dire que le mont Sinaï, là où Dieu s'est révélé pour donner sa loi à Moïse et au peuple de Dieu, à son peuple, au peuple juif, au peuple d'Israël, Paul est en train de dire que ce peuple est esclave. Esclave. C'est énorme. Paul est en train de dire que si nous cherchons dans l'obéissance à la loi de Moïse, la faveur de Dieu, nous sommes esclaves. Et les juifs de nationalité, de sang, qui vivent encore aujourd'hui et qui cherchent dans l'obéissance à la Torah, à la loi de Moïse, à se rendre Dieu agréable et favorable, sont dans l'esclavage. Énorme. Cela revient à dire que l'apôtre Paul, ici, inspiré par l'Esprit de Dieu, sépare l'humanité en deux parties. D'un côté, il y a la plupart des gens autour de nous qui, par leur capacité naturelle sans Dieu, s'efforcent de se rendre justes devant Dieu. Ce sont les Français, les Anglais, les Indiens, les Camerounais, on pourrait faire toute une liste, les Juifs, les musulmans, les bouddhistes, les athées, tous ces gens-là cherchent à se rendre justes dans leur nationalité, dans leur culture, dans leur religion, devant Dieu. Et c'est impossible. Ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie de personnes sur Terre, dans tous les siècles, ce sont ceux qui, parmi les Français, les Anglais, les Indiens, les Camerounais, les Juifs, les musulmans, les bouddhistes, les athées, sont appelés par Dieu à sortir de leur esclavage, l'esclavage de leur propre mérite, de leur propre justice, pour mettre leur foi en Jésus-Christ, qui, lui seul, peut les sauver et les racheter et les rendre justes à cause de son sacrifice à la croix. Deux catégories, deux peuples. Soit on appartient à la lignée de Sarah, Isaac, selon la promesse, soit on appartient à la lignée d'Agar, Ismaël, selon la chair, selon nos capacités naturelles. Il n'y a que ces deux familles, ces deux catégories de personnes sur Terre. D'où le titre de ce premier point que j'avais donné, le titre du premier point de la prédication, « On ne naît pas chrétien ». On le devient. Question, comment devenir chrétien ? C'est le deuxième point. En étant libéré par Jésus-Christ. C'est ce que Paul dit au tout début du chapitre 5. Je relis le verset. C'est pour la liberté que Christ nous a libérés. C'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Si je dis, je suis né dans une famille chrétienne, je suis en train de dire, je suis un esclave qui a besoin d'être libéré par le Christ. Naître dans une famille chrétienne ne suffit pas pour nous rendre justes devant Dieu. Il nous faut nous tourner vers le Christ par une démarche de foi personnelle. Et c'est la raison pour laquelle nous ne baptisons pas les nourrissons, par exemple. Parce qu'ils n'ont pas la possibilité de faire cette déclaration de foi personnelle. Nous attendons qu'ils aient compris et qu'ils aient la maturité suffisante pour exprimer, confesser leur foi personnelle. Sinon, ils vont satisfaire à un désir de leurs parents qui peut être légitime. Ou alors, ils vont répéter ce que les parents croient et ce que les parents disent. Et c'est bien. Mais ça ne suffit pas. Il faut avoir une conviction personnelle. C'est ça qui fait les églises de professants par rapport aux églises de multitude. C'est-à-dire, on est juif, on est musulman ou on est chrétien parce que nos parents sont chrétiens ou parce qu'on a un grand-père pasteur. Pas ça, la foi personnelle. Même si ça peut aider de naître dans une famille chrétienne. On ne naît pas chrétien, on le devient par la seule foi en Jésus-Christ. C'est-à-dire en comprenant avec notre intelligence que nous sommes pécheurs devant Dieu, que nous ne pouvons pas nous justifier nous-mêmes et que nous avons besoin d'un sauveur. Et ce sauveur, il n'y en a qu'un, c'est Jésus-Christ. Et il a pris à notre place, à la croix, la condamnation que nous méritions. Et c'est donc sa justice à lui qui était parfait, qui rachète notre injustice. Ce que nous ne pouvons pas acheter, parce que nous ne pouvons pas acheter Dieu, nous le recevons gratuitement par la foi de celui qui a payé le prix de notre vie, savoir Jésus-Christ. Vous voyez, c'est cela la liberté chrétienne. Être rendu libre par le Christ. Et dans cette liberté, lorsqu'on trouve cette liberté, il y a de la joie. C'est ce que Paul dit ici en citant le prophète Ésaïe. « Réjouis-toi, femme stérile, verset 27, toi qui n'as pas eu d'enfant, éclate en cri de joie, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement. Car les enfants de la femme délaissée, abandonnée, seront plus nombreux que ceux de la femme qui a son mari. » Qu'est-ce que Paul est en train de dire ici? Pourquoi est-ce qu'il cite Ésaïe, chapitre 54, verset 1? Dans le contexte du prophète Ésaïe, la parole est adressée alors au peuple d'Israël quelques siècles avant la venue de Jésus-Christ, alors que le peuple d'Israël est parti en exil, en captivité à Babylone. Le peuple est parti en esclavage à cause de leur péché, à cause de leur révolte contre Dieu. Et ils sont là à Babylone sous le jugement de Dieu pendant 70 ans. Et ils sont dans cette situation comme une femme stérile abandonnée par son mari. Dieu dans le rôle du mari, Israël dans le rôle de la femme rejetée, abandonnée. Tu me trompes, dit Dieu, avec des idoles, eh bien tu vas aller adorer ces idoles en captivité. C'est ça l'esclavage à Babylone. Mais c'est pour un temps donné. Et après ce temps, il y a un temps de restauration, un temps de libération, un temps de délivrance. Et Dieu ramène son peuple qui est dispersé. Ce rassemblement qui a lieu après les 70 ans d'exil n'est pas complètement satisfaisant. Et il annonce le besoin d'un sauveur et d'une autre libération, plus profonde encore, libération par rapport au péché. Et pas seulement par rapport à la nation. Et c'est cette délivrance que le prophète Ésaïe annonce. Et c'est cette délivrance que l'apôtre Paul reprend ici. Ce peuple stérile qui veut adorer les idoles, Dieu va finalement le ramener et lui donner la possibilité d'enfanter de nouveau. Comme Sarah qui, femme stérile, a fini par enfanter Isaac en comptant sur la promesse de Dieu. Et cette histoire, et ce que Paul dit ici, est une image de tous ceux qui, aujourd'hui encore, mettent leur foi en Jésus et vivent à sa suite pour montrer qu'ils sont bien les enfants de la promesse. Alors, une question que nous pourrions nous poser, arrivée à ce stade de la prédication, c'est qui est notre mère? Oh, pas notre mère biologique, vous connaissez votre maman. Mais qui est notre mère du point de vue de la foi? Dans quelle descendance est-ce que nous nous situons? Est-ce que nous sommes dans la lignée des gens qui, comme la plupart des gens autour de nous, cherchent à se rendre juste devant Dieu par leur propre mérite, par une belle carrière professionnelle, par une belle situation familiale, par une belle religion bien ordonnée? Ou bien est-ce que nous appartenons à la lignée de la liberté que nous ne trouvons qu'en Christ, Sarah, Isaac, et puis Jésus-Christ dans l'histoire. Il y a là un appel formidable à la liberté. C'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Qu'est-ce que nous faisons de cet appel ? Nous sommes appelés à venir à Jésus-Christ pour trouver nos vraies racines familiales, notre vraie lignée. Il ne s'agit pas ici de renier nos racines biologiques, papa et maman, ou les grands-parents, ou les arrière-grands-parents. Ce n'est pas ça dont il s'agit. Il s'agit de comprendre que nos racines biologiques naturelles, notre place dans une généalogie humaine, ne peuvent pas nous rendre acceptables devant Dieu. Il faut une transformation du cœur, de l'esprit, des sentiments, de tout notre être. Même avec une belle pratique religieuse et rigoureuse, pour être accepté par Dieu, il faut un miracle. Il faut que Jésus transforme nos vies et que son esprit nous aide à rester accrochés à lui. On ne naît pas chrétien, on le devient. On devient chrétien en étant libéré par le Christ. Maintenant, question, comment est-ce qu'on reste chrétien ? Relisons ensemble à partir du verset 28. « Quant à vous, mes frères, comme Isaac, vous êtes les enfants de la promesse. Mais tout comme autrefois, celui qui était né selon la chair, Ismaël, persécutait celui qui était né selon l'esprit, Isaac, ainsi en est-il encore maintenant. Or, que dit l'Écriture ? Chasse la servante et son fils, car le fils de la servante n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Ainsi, mes frères, nous ne sommes pas les enfants de la servante, mais ceux de la femme libre. C'est pour la liberté que le Christ nous a libérés. Tenez donc ferme et ne vous remettez pas sous le joug de l'esclavage. » Ici, dans ces versets, Paul fait le lien entre ce qui est raconté dans la Genèse et la situation des Galates à qui il envoie la lettre. Vous voyez ça ? Il arrive ici à la conclusion de sa pensée et de tout ce qu'il a dit depuis le chapitre 1. Alors, on ouvre bien ses oreilles. Il dit « Or vous, frères, vous êtes les enfants de la promesse. » Il dit ça aux Galates. Et les versets que nous avons lus tout à l'heure, qui parlent de la Genèse, sont une illustration et en même temps le fondement de ce qui se joue pour la foi des Galates. Et il y a là quelque chose à comprendre pour notre propre foi aujourd'hui. Paul dit « Vous, chrétiens Galates, vous êtes comme Isaac, Dieu vous a appelé à la liberté. » Alors, restez libre, restez libre. Et de nouveau, Paul fait référence à la Genèse ici, à Genèse 21. Je vous lis quelques versets rapidement, ne cherchez pas le texte, écoutez-le. Genèse 21, à partir du verset 9. Sarah vit rire le fils que l'Égyptienne Agar avait donné à Abraham, Ismaël. Elle dit à Abraham, « Chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec Isaac, mon fils. » Citation de Paul dans Galates 4. Cette parole déplut beaucoup à Abraham à cause de son fils, Ismaël, parce qu'il l'aime. Mais Dieu dit à Abraham, « Que cela ne te déplaise pas, à cause du garçon et de ta servante. Écoute tout ce que Sarah te dira, car c'est par Isaac que viendra ce qui sera appelé ta descendance. » Quant au fils de ta servante, je ferai aussi de lui une nation, car il est ta descendance. Donc une bénédiction pour Ismaël, mais la bénédiction principale, disons, vient par Isaac. Plusieurs choses sont dites ici qui sont importantes. Paul dit que le rire d'Ismaël est une persécution. Pourquoi ? Il y a deux éléments dans le texte de Genèse 21 qui vont dans ce sens, me semble-t-il. Le premier, nous avons entendu cette lecture, Sarah vit rire Ismaël. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à « il rit » C'est qui il rit ? C'est Isaac. Ce qui veut dire que d'une certaine manière, Ismaël est en train de prendre la place de son frère pour l'évincer. Deuxième élément, c'est la parole de Sarah elle-même. Parole qui déplaît fort à Abraham, mais que Dieu approuve. ce qui peut être un peu surprenant pour nous qui lisons l'histoire. Dieu cautionnerait-il l'esclavage et le fait de chasser les esclaves quand on en a marre ? Chasse l'esclave, Agar, avec son fils. Pourquoi ? Sarah dit, car le fils de l'esclave n'aura aucune part à l'héritage d'Isaac. Ce qui semble indiquer que le rire d'Ismaël, c'est pas un simple rire, mais il y a un enjeu, c'est celui de l'héritage familial. Vraisemblablement, Ismaël, qui est un adolescent, il a 13-14 ans, se vante devant son petit frère d'être lui l'aîné, et donc celui qui va recevoir l'héritage paternel. Le fils qui est né selon les méthodes naturelles, sans l'intervention de Dieu, le fils né selon la chair, Ismaël, revendique pour lui-même l'héritage de son petit frère, de son demi-frère, qui lui est né selon la promesse et l'action de Dieu. Et cela, Sarah, la femme d'Abraham, ne le tolère pas. Eh bien, Paul fait le rapprochement entre cette rivalité entre les deux frères et la situation des Galates. Verset 29, je relis dans Galates 4. « Mais tout comme autrefois, celui qui était né selon la chair persécutait celui qui l'était selon l'esprit, ainsi en est-il encore aujourd'hui. » C'est vous, les Galates, dont il est question. Et c'est nous, aujourd'hui, qui sommes aussi concernés par ce texte. Qu'est-ce que ça veut dire ? Cela veut dire que les faux enseignants, Paul pourrait dire ça, les faux enseignants qui vous disent de vous soumettre à la loi de Moïse pour être sauvés, ils vous persécutent. Comme Ismaël voulait prendre l'héritage d'Isaac, ces faux enseignants, soi-disant zélés, sont jaloux de l'héritage que vous avez reçu par la seule foi en Jésus-Christ. Et ils veulent vous ramener à l'esclavage de vos mérites, de votre propre justice. Voyez le lien entre l'histoire de la Genèse et la situation des Galates. Ces faux enseignants qui circulent dans les églises là et qui disent « Si tu n'obéis pas à la loi de Moïse, si tu ne te fais pas circoncire, tu ne peux pas être sauvé. » Paul dit « Ils vous persécutent, ce sont des menteurs. » Quelle solution Paul propose-t-il par rapport à cette situation ? J'ai appelé ça la méthode Sarah. Verset 30. Que dit l'Écriture ? Chasse la servante et son fils, car le fils de la servante n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Ainsi, mes frères, nous ne sommes pas les enfants de la servante, mais ceux de la femme libre. Alors la méthode Sarah, ça consiste en quoi ? Deux possibilités, à mon avis, ici. Soit exclure de l'Église les faux enseignants. Ce qui implique que l'Église prend position et exerce la discipline par rapport à de faux frères. C'est pas tous les jours, Dieu merci, qu'on a à prendre ce genre de décision. Mais c'est ce que Paul semble indiquer ici, parce que l'enjeu est terrible. L'enjeu, c'est rien de moins que rester chrétien. Deuxième possibilité, qui est un petit peu plus soft, c'est pas de chasser les faux enseignants de l'Église, mais c'est au minimum de rejeter leur discours qui essaye de ramener les chrétiens à des règles de piété ou de pureté pour paraître juste devant Dieu. Prenons quelques exemples de formules qu'on entend. J'en ai déjà cité au cours des précédentes prédications sur Galates, j'en reprends certaines, j'en ajoute de nouvelles. Un vrai chrétien lit la Bible tous les jours. Un vrai chrétien pratique le jeûne. Pas prendre de nourriture, par exemple. L'Église authentique, c'est là où tous les dons de l'Esprit qui sont mentionnés dans le Nouveau Testament s'expriment. S'il manque certains dons, ce n'est pas la vraie Église. Si tu ne parles pas en langue, tu n'as pas reçu l'Esprit de Dieu. Si tu es malade ou pauvre, ce n'est pas normal. Un vrai chrétien doit être en bonne santé et s'enrichir financièrement. Le vrai baptême se pratique avec la formule « au nom de Jésus ». Si tu n'as pas cette bonne formule, ce n'est pas un vrai baptême, tu n'es pas sauvé, etc. toutes ces phrases, chers amis, chers frères et sœurs, toutes ces phrases sont des mensonges. On a tordu l'évangile de Jésus-Christ. Le problème, ce n'est pas de poser des règles. Tu veux lire la Bible tous les jours pour mieux connaître Dieu et grandir dans la foi ? Tu as raison, tu fais bien, vas-y ! Il y a tant de versets dans la Bible qui nous y encouragent. Mais ce n'est pas parce que tu lis la Bible tous les jours que tu es chrétien. Tu veux jeûner ? Vas-y, qu'est-ce qui t'en empêche ? Tu es libre en Christ. Mais ce n'est pas parce que tu jeûnes que Dieu t'aime. Tu souhaites que tous les dons de l'Esprit Saint s'expriment dans l'Église ? Ton souhait est noble. Mais qui est-ce qui distribue les dons ? Nous ou Dieu ? Tu veux parler en langue ? Vas-y. Mais ce n'est pas parce qu'on parle en langue qu'on est chrétien. Tu voudrais être en meilleure santé et plus riche pour être un meilleur chrétien ? Mais où est-il écrit dans la Bible que Dieu nous doit la santé et la prospérité ? Tu veux être sûr que ton baptême est un vrai baptême ? Eh bien, ce n'est ni la formule du baptême, au nom de, ni la quantité d'eau qui compte. C'est ta confession de foi, c'est-à-dire ton attachement à Jésus-Christ par la foi, et par la foi seule. Tu t'engages par le baptême dans la vie chrétienne en comptant sur l'aide de Dieu, parce que tout seul, tu n'iras pas loin. Comme chacun de nous. Mais avec Dieu, tu iras au bout du chemin. Cela ne dépend donc pas de toi. Ta part, c'est de dire « Oui, moi, je ne peux pas le faire. Jésus l'a fait pour moi. » Et c'est ça, la foi. Et c'est ça, la liberté chrétienne. C'est Jésus qui nous rend libres. Pas nos œuvres. Le problème dans toutes ces phrases que j'ai citées, et qui en fait finalement des mensonges, c'est ce qu'on ajoute à la seule foi en Jésus-Christ. On dit « Oui, Jésus est mort pour mes péchés, mais si je lis ma Bible, si je jeûne, si je pratique tel don spirituel, si j'ai la bonne formule à mon baptême, si je suis riche et en bonne santé, alors Dieu m'aimera davantage. Parce que je sais que j'aurais fait quelque chose pour mériter sa faveur. » Eh bien, cet état d'esprit-là, cette mentalité-là, cette façon de penser, Paul dit que c'est un esclavage. Et que les vrais chrétiens, justement, ce sont ceux qui sont libérés de cette mentalité. Ceux qui savent qu'ils ne peuvent pas acheter Dieu par leur mérite. Ils doivent rejeter ces faux enseignements. Ne nous laissons donc pas séduire par ces discours qui ont l'apparence du bien et de la piété, mais qui consistent rien de moins qu'à renier Jésus. Et ça, nous allons le voir dans le texte de la prochaine fois. La solution, venir ou revenir à Jésus-Christ. Lui seul peut nous rendre libres. C'est pour la liberté que le Christ nous a libérés. Tenez donc ferme et ne vous remettez pas sous le joug de l'esclavage. Il y a là un appel formidable à la liberté. Tenons ferme dans la foi en Jésus-Christ, sans ajouter quoi que ce soit pour notre salut. Résistons aux péchés qui nous éloignent de Jésus. Les promesses de Dieu sont sûres. Ce sont les promesses d'une vraie liberté. Alors, j'aimerais terminer en faisant quelque chose qu'on ne fait pas souvent, mais il me semble que le texte nous conduit dans ce sens ce matin. Ce texte nous appelle, l'appel est clair. Appel à la liberté. Il y a probablement dans notre assemblée des membres des deux descendances dont j'ai parlé tout à l'heure. Des enfants d'Isaac et des enfants d'Ismaël. Pour les enfants d'Ismaël, si vous avez bien compris ce que j'ai expliqué tout à l'heure, donc pour ceux qui parmi nous pensent que c'est en faisant des choses pour Dieu qu'ils vont trouver le salut, j'aimerais vous appeler à devenir chrétien. Si certains parmi vous sont touchés par cet appel que Jésus nous lance ce matin, appel à la liberté, si vous désirez vraiment devenir libre et cesser d'essayer de prouver à Dieu votre valeur, alors je vous invite à faire cette prière maintenant. Ô Dieu, je comprends aujourd'hui que rien de ce que je peux faire ne peut me rendre acceptable à tes yeux. En cherchant à réussir ma vie, à prouver aux autres, à moi-même ou à toi, Dieu, que je suis quelqu'un de bien, je me trompe de chemin, je me trompe de famille, car je pense que je peux y arriver sans toi. Pardonne-moi, change ma façon de penser, que ton esprit vienne habiter en moi pour que je puisse suivre le Christ. C'est lui qui est le chemin, la vérité, la vie. C'est par lui seul que je peux venir à toi. Change ma vie, que je devienne libre et que je le reste pour toujours. Amen. Si dans votre fort intérieur, ce matin, vous avez fait cette prière, on aurait pu en formuler d'autres, hein, je vous invite, après le culte, à venir devant pour prier avec l'équipe pastorale. Il y a Peter qui est là, Patrick qui préside le culte, et moi-même, on va se tenir là devant, et vous pouvez venir prier avec nous. J'adresse cette même invitation à l'autre descendance, les enfants d'Isaac. Vous êtes appelés, nous sommes appelés, à rester chrétiens. Si donc certains parmi vous, qui sont déjà chrétiens, se sont éloignés de la foi, ou sont tentés, plus ou moins, parce que nous le sommes tous, de mener leur vie à leur manière, en se remettant sous une forme d'esclavage ou une autre. Alors, l'appel de Paul aux Galates est aussi pour vous ce matin. Écoutons encore ce beau verset. C'est pour la liberté que le Christ nous a libérés. Tenez donc ferme et ne vous remettez pas sous le joug de l'esclavage. Il en va de votre vie spirituelle, maintenant et pour l'éternité. Rester chrétien, ce n'est pas une option. Il faut aller au bout du chemin, avec le Christ. Ne cédons pas aux sirènes alarmistes et légalistes et les faux évangiles qui nous entourent, mais tenons ferme dans la foi, dans la seule foi en Jésus-Christ. Alors vous aussi, je vous invite à venir prier avec l'équipe pastorale après le culte pour que nous puissions ensemble nous encourager à persévérer dans la liberté chrétienne. Nous allons prier. Seigneur Dieu, nous ne savons pas trop quoi dire devant tant de grâces, tant de cadeaux de ta part. Le thème du culte ce matin était autour du don, ce que tu nous donnes. Tu nous donnes la liberté. Tu nous rends libres. Si ce matin nous avons conscience que nous sommes esclaves, fais-nous la grâce de venir à toi. Appelle-nous et change nos vies. Si nous sommes devenus hésitants dans notre foi ou si les difficultés nous encourage d'une certaine manière à nous remettre sous une forme d'esclavage, et de nous à revenir à toi. Ne nous laisse pas partir à la dérive. Affermis notre foi. Manifeste ta présence dans nos cœurs, dans l'assemblée, pour que nous puissions personnellement et les uns avec les autres marcher humblement devant toi. Nous avons besoin, les uns et les autres, que tu nous transformes par ton esprit. Fais-le encore ce matin. Nous te demandons cela au nom de ton Fils Jésus qui nous libère. Amen.